Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
La science CQFD, Natacha Triou.
Ils sont à la croisée de la biologie, de la physique, de la chimie et de l'ingénierie. Les organes et les organoïdes sur puce. Pourquoi représentent-ils le futur de la médecine et de la recherche fondamentale ? On parle parfois de mini-organes, mais ce n'est pas tout à fait exact. Le premier organoïde d'intestin, en 2009, créé à partir de cellules souches, ne ressemble en rien à un intestin, mais il en mime certaines fonctions. Des plans d'investissement nationaux qui se mettent en place actuellement injectent 48 millions d'euros sur 6 ans pour rendre cette technologie opérationnelle d'ici 2030. Étudier in vitro sur un proxy, un avatar d'organes humains, plus fidèle qu'une souris, c'est une promesse de taille pour la médecine et la pharmacologie de demain. Organoïde, silence, ça puce. Stéphanie Descroix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS et chef d'équipe à l'Institut Curie. Nous sommes en ligne avec Xavier Gidrol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du laboratoire Biomix, associé au CEA, à l'INSERM et à l'Université Grenoble-Alpes. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, bien sûr, mais aussi sur le web, sur franceculture.fr ou sur Twitter, sur X, sur notre fil @sciencecqfd avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors comment les organoïdes et organes sur puce pourraient-ils être des accélérateurs du développement de médicaments ? Comment se fabriquent-ils ? Quelles sont les nouvelles applications envisageables et à quelle vitesse ce secteur se développe-t-il ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Et pour commencer, ces organoïdes sur puce pourront-ils à l'avenir remplacer l'expérimentation animale ? La question est posée en 2018, c'est notre archive du jour.
Voilà ce qui devrait bientôt remplacer les souris de laboratoire, des organes humains microscopiques placés sur des puces électroniques.
Nous parvenons à faire croître des minuscules organes dans chacune des microcavités qui se trouvent ici. Dans chacun de ces 6 bioréacteurs, il y a 9 microcavités qui contiennent un foie humain, un cœur humain, un cerveau humain ou un rein humain. Ces tissus sont minuscules, ils ont la taille d'environ 1/2 mm et sont munis de capteurs. Ces capteurs nous permettent de mesurer l'utilisation de l'énergie par la cellule en fonction du temps. Ils permettent de comprendre dans le détail ce qu'il arrive à ces organes quand ils grandissent, se développent ou qu'ils sont exposés à des médicaments.
Des mini-organes humains sont déjà cultivés dans plusieurs laboratoires à travers le monde, mais le professeur Yakov Namias est le premier à avoir muni ses organes de capteurs.
L'un de mes étudiants, Mohamed, a construit une puce électronique qui nous permet de faire croître un minuscule cœur et de mesurer son métabolisme, mais aussi son activité électrique. C'est comme de prendre un électrocardiogramme grâce à une puce in vitro et dans une boîte de pétri pendant que le cœur bat.
Voilà, une archive du 28 juin 2018 sur i24 News. Stéphanie Descroix, on entendait dès 2018 voilà, qu'on peut cultiver un cœur humain, un foie humain, un cerveau humain. On peut tout faire ?
Non, je crois pas. Malheureusement, pas encore. C'est très intéressant ce qu'il raconte, parce que c'est vraiment les balbutiements et le démarrage de ces nouveaux systèmes in vitro. Par contre, je voudrais juste qu'on soit un tout petit peu raisonnable sur ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on ne reproduit pas exactement ni un cœur, ni un cerveau humain encore. On sait en reproduire un certain nombre de caractéristiques, et ça peut être déjà largement suffisant pour les recherches qu'on veut mener avec ces systèmes-là. Et ce qui est décrit très clairement et qui est mis en valeur ici, c'est aussi qu'on est capable de faire des mesures sur ces objets-là de façon extrêmement fine. Et ça, c'est ce qu'on sait déjà faire. Mais je voudrais pas qu'on laisse à penser qu'on est déjà sur l'homme reproduit in vitro parfaitement. Peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Il y a toujours ces questions sur la science en train de se faire. Mais en tout cas, on n'y est pas encore exactement.
Voilà, quand on parle de mini-organes, c'est un abus de langage. Votre action, vous aussi, Xavier Gidrol, à l'écoute de cette archive?
Je suis complètement d'accord avec Stéphanie. Effectivement, ce sont des modèles qui améliorent énormément ce qu'on faisait jusqu'à présent, où on cultivait des cellules en 2 dimensions sur du plastique avec du sérum de veau fœtal, donc qui ne ressemblait pas tellement aux conditions physiologiques. Là, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de se rapprocher de la physiologie humaine, de travailler que sur l'humain dans des conditions qui petit à petit se rapprochent plus de la réalité physiologique de l'organe. Vous avez raison de dire que ce ne sont pas des mini-organes, ce sont des organoïdes. C'est pour, vous savez que le suffixe « oïde » veut dire « qui ressemble à », »,« qui s'apparente à ». C'est pour ça qu'on les appelle des organoïdes et pas des mini-organes. Ils miment des fonctions, ils se rapprochent de la réalité. Mais effectivement, comme le disait Stéphanie Descroix et ce chercheur, on peut aussi aller mesurer au plus près de la cellule beaucoup de paramètres grâce à l'électronique, et c'est en ça que ça sert d'intermédiaire entre le médecin et la cellule, et le patient, pardon.
Stéphanie Descroix, pour continuer hein, sur ces questions un peu étymologiques, organoïdes, organoïdes sur puce, organes sur puce, quelle différence entre ces trois technologies ?
Il y en a pas mal. Les organoïdes, d'abord, c'est les premiers. Comme le mentionnait Xavier, c'est vraiment l'idée de mimer un certain nombre de caractéristiques de l'organe, mais ça ressemble à ce que font les biologistes classiquement. C'est-à-dire qu'on prend des cellules qui sont souvent considérées comme des cellules souches, c'est-à-dire qu'ils sont capables de donner lieu à différents types cellulaires. On les met dans un cocktail on appelle ça des facteurs de croissance, qui sont des molécules qui vont leur permettre d'acquérir, de pousser, de proliférer et éventuellement d'acquérir un certain nombre de caractéristiques dans un gel. C'est l'équivalent de la jelly, si vous allez manger de la jelly en Angleterre, et les cellules vont s'auto-organiser. Les organoïdes sont vraiment basés sur l'auto-organisation des cellules et leur capacité à se différencier. Vous mentionnez l'organoïde intestinal en disant qu'il ne ressemblait pas à un intestin. C'est vrai, partiellement, puisque l'intestin, on sait que c'est un tube avec un certain nombre de repliements, on appelle ça des cryptes et des villosités, donc des vallées et des bosses. Quand on a des organoïdes intestinaux, ils sont capables de faire ces vallées, pas les bosses. Et c'est pas des tubes, c'est vraiment comme un ballon de foot, c'est-à-dire que c'est une couche de cellules avec quelque chose de creux à l'intérieur. Ça, c'est pour les organoïdes. Ce qu'on appelle les surpuces, c'est quelque chose d'un petit peu différent, puisque là, on a vraiment un objet matériel, un objet physique, c'est pas que des cellules dans un gel, qui va permettre soit de mesurer des choses, comme ce que mentionnait Xavier, soit directement de structurer en 3D, de donner une forme. On peut aussi travailler sur la forme de l'organe, on peut contrôler la position des cellules, on peut contrôler les forces qu'on applique. On sait aujourd'hui que, par exemple, les forces, c'est quelque chose de majeur dans nos organes, et que ça a un effet important sur le comportement de nos cellules. Et donc, on utilise ce qu'on appelle des puces microfluidiques. Je crois qu'on reviendra sur la définition de ces systèmes-là pour recréer un organe de façon plus contrôlée, puisqu'on n'est pas que basé sur l'auto-organisation, mais on contrôle. Je dis souvent que les organes sur puce, j'ai cette métaphore culinaire, c'est un peu comme le cuisinier qui a une recette de cuisine et qui voudrait tester l'effet d'un ingrédient ou pas dans sa recette, il la met ou il la met pas. Bah, c'est exactement la même chose avec ces puces microfluidiques, on peut contrôler exactement les caractéristiques qu'on donne à l'organe. Et pour finir dans la complexité des choses, il y a aussi des organoïdes sur puces, c'est-à-dire que les cellules qu'on va mettre à l'intérieur de ces puces, sont des cellules de type organoïde, qui vont s'auto-structurer, mais avec des contraintes qui sont données par la puce.
Xavier Gidrol, pour y voir aussi, encore de façon encore plus claire, cette différence entre ces trois technologies.
Bien, je pense que les organoïdes ont un grand futur devant eux. Ils vont permettre beaucoup de choses, mais ils ont quand même des limitations. J'en vois quatre. La première, c'est que, comme le disait Stéphanie, ce sont des objets cellulaires, pluricellulaires, auto-organisés. Le maître mot, c'est auto-organisation. Et donc, comme ils sont auto-organisés, il y a beaucoup de variabilité de ce qu'on obtient in fine dans ce gel, dans ce jelly, avec beaucoup de structures différentes. La deuxième limitation, c'est que ils ont une croissance limitée. On peut pas les faire grossir énormément. On parlait d'un demi-millimètre, on peut aller jusqu'au millimètre, mais guère plus, parce qu'ils sont pas vascularisés. La troisième limitation, c'est comme on démarre de cellules souches, in fine, on a quelque chose qui ressemble plus à un organe d'embryon humain plutôt que d'adulte humain. Il y a un défaut de maturation. Et la quatrième limitation, c'est que avec un organoïde, on peut faire un organoïde cérébral, un organoïde de cœur, mais on peut pas forcément les connecter facilement. Et les mettre sur puce, utiliser des puces microfluidiques, ça permet de pallier ces quatre limitations. Moins pour partir, on est loin d'être parfait, il y a encore du travail, mais on diminue la variabilité parce que, comme le disait Stéphanie, on peut les contrôler à des endroits, les mettre, éventuellement leur donner une forme particulière. Donc on diminue la variabilité. On permet une meilleure croissance parce qu'on peut éventuellement vasculariser la microfluidique mimant, si vous voulez, le flux sanguin. On permet de mieux maturer, donc ça on l'a démontré récemment que vasculariser des organoïdes sur une puce, ça permet de les maturer presque autant que de les greffer chez une souris, grâce à la vascularisation. Donc, on arrive à ressembler plus à l'organe adulte. Et enfin, la microfluidique, elle permet de connecter un organoïde de cerveau avec un organoïde de foie et justement mimer un peu plus les fonctions qu'on trouve chez l'humain. Par exemple, le métabolisme des médicaments dans le foie avant qu'ils soient efficaces sur un cœur.
Oui, c'est ça, c'est que les organoïdes, pour pouvoir les étudier comme s'ils étaient dans leur environnement naturel, ça c'est grâce à l'innovation des puces qui reproduisent les forces et les écoulements de fluide du corps humain, Stéphanie Descroix. Les organoïdes ou organes sur puces, en fait, on parle de deux technologies qui sont en fait parallèles, mais ce sont deux approches complémentaires, on va pas forcément étudier les mêmes choses.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que mentionnait Xavier, ça se voit, nous travaillons dans le même domaine. Les organoïdes, c'est vraiment les outils de départ des biologistes. Les organes sur puce ou les organoïdes sur puce, il y a quand même un aspect technologique qui est aussi majeur, qui permet effectivement ces aspects de contrôle. Et il me semble que il y a sûrement une croisée des chemins où il y a déjà des endroits où ces deux approches se rejoignent. Mais les organoïdes sont vraiment des outils qui sont... une fois que la biologie est établie, facile à produire, vous pouvez, on appelle ça des passages. Vous savez, quand vous avez des cellules et que vous voulez les amplifier, avoir un plus grand nombre, vous pouvez les laisser croître et ensuite les changer de puits, en gros, de réceptacles dans lesquels on les trouve, pour les amplifier. On peut faire la même chose avec les organoïdes. Donc les biologistes restent sur des technologies qui sont leurs technologies, qu'ils connaissent bien en culture cellulaire. Quand on passe sur des organes sur puce, il y a un aspect d'ingénierie qui est vraiment important, qui n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'il faut se former, il faut être capable de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, et qu'il faut être capable de contrôler ces aspects, ces dispositifs. Et donc c'est vrai qu'en termes d'application, il me semble pour tout ce qui va être très haut débit, quand on va vouloir chercher des choses, par exemple on a parlé d'aspects pharmaceutiques, quand on va chercher à cribler des milliers de molécules, la question des puces c'est une possibilité. Moi si j'étais une pharma, je commencerais peut-être pas par ça. Je pense que l'étape d'après, les organes sur puces vont permettre une plus importante sophistication et certainement de mieux mimer l'in vivo. Mais il y a un coût pour ça, donc peut-être qu'on ne va pas les trouver exactement aux mêmes étapes de la chaîne de développement d'un médicament. On peut imaginer, aujourd'hui quand on fait du criblage de molécules, comme le disait Xavier, on met des cellules à pousser comme des monocouches sur des boîtes de pétri, donc sur du plastique dur. Donc vous et moi, vous avez bien vu, on n'est pas très dur hein, dans notre corps, donc on est très 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 loin de l'in vivo, mais néanmoins, on a quand même réussi à faire un certain nombre de choses avec ça. Et certainement, les organoïdes, par leur structure 3D, par la capacité qu'ils ont à s'auto-organiser, vont être des meilleurs mimiques, vont être plus biomimétiques que des cellules en 2D. Et certainement, pour moi, l'étape d'après, quand on va chercher des choses plus raffinées de compréhension de mécanismes et d'aller sur un nombre de candidats médicaments plus faible, serait certainement l'utilisation plus des organes sur puce ou organoïdes sur puce dans ce cadre-là.
Xavier Gidrol, vous l'avez évoqué, hein, le foie, c'est le principal organe qu'on cherche à mettre en relation avec d'autres organes, et donc l'organoïde sur puce qui attire l'attention des chercheurs, parce que bon, c'est là où, dans le foie, que les médicaments se métabolisent. Pour qu'on se représente bien quand même de quoi on parle, un organoïde de foie sur puce, à quoi ça ressemble? Vous disiez qu'on a du mal à faire des organoïdes de grande taille.
Donc, comme c'est évoqué dans l'interview au début de l'émission, on parle d'un groupe de cellules souches. Donc, les cellules souches, ce sont les cellules qui sont à l'origine de toutes les cellules du corps humain. C'est pour ça qu'on les appelle totipotentes. Et donc, elles s'auto-organisent dans une sphère, comme le disait Stéphanie, sphère creuse ou pleine. Ça dépend des conditions, enfin des propriétés intrinsèques des cellules qui les forment et des propriétés intrinsèques du milieu qui les reçoit. Donc, in fine, on a comme une petite balle, une petite sphère de 500 microns, 600 microns maximum, enfin, on va dire entre 300 et 800, et donc moins d'un millimètre. Et c'est ce qu'on va piéger dans une puce. Donc c'est déjà difficile de marier les cellules et les puces technologiquement, puisqu'il faut aller les piéger, ça demande des astuces technologiques. Et comme le soulignait Stéphanie, c'est ce mariage entre les biologistes du développement, biologistes et généticiens du développement humain, qui cherchent à comprendre le développement de l'humain et des organes, c'est ce que je suis, a été important. Il n'aurait pas pu aller très loin sans le mariage avec les technologues les spécialistes de la microfluidique, de la physique des écoulements, de la biomécanique. C'est pour ça que c'est pas très surprenant qu'in fine, ces objets se soient développés, organes surplus, organoïdes surplus, dans des endroits dans le monde où il y avait à proximité des biologistes du développement, des spécialistes de la cellule souche et des spécialistes de la microfluidique. Et on voit, c'est très net, c'est que dans les endroits où il y avait une proximité physique et intellectuelle entre ces deux domaines qui étaient très séparés au début, qu'ont pu se développer les organismes surplus. Donc à quoi ça ressemble? C'est une sphère de moins d'un millimètre qu'on va piéger dans des canaux microfluidiques qui font entre 10 et 100 microns, on va dire. Donc, in fine, c'est un domino en plastique avec des canaux microfluidiques dedans et les puces qu'on a du mal à voir, et les cellules, pardon, qu'on a du mal à voir, mais qui sont là.
Peut-être qu'il faut qu'on explique ce que c'est une puce à ce stade-là.
Mais justement, en quoi consiste la microfluidique, hein, plus précisément? Comment fabrique-t-on de telles maquettes vivantes? Quelle est la recette? Restez avec nous, on continue d'explorer ce domaine.
France Culture. La science CQFD, Natacha Trio.
En direct sur France Culture, avec Stéphanie Descroix et Xavier Gidrol, nous parlons des organes et des organoïdes sur puce. Des assemblages cellulaires de moins d'un millimètre, capables de reproduire l'architecture et les fonctions d'un organe. On l'a vu, hein, les cellules souches, c'est l'ingrédient principal d'un organoïde. Avant de parler de microfluidique, Xavier Gidrol, quelle est la recette, hein, pour fabriquer un organoïde? Prenons un organoïde intestinal par exemple, hein, un intestinoïde, quelles sont les étapes?
Donc on va prendre des cellules souches, soit d'un embryon, mais il y a des questions éthiques et logistiques à voir, donc c'est pas toujours facile, il faut des autorisations spéciales, soit induire des cellules souches. Donc ça, on sait assez le faire facilement, on prend des cellules de n'importe qui, de peau, de sang, facile d'accès, et à partir de là, on leur fait oublier ce qu'elles sont, pour devenir des cellules souches et pouvoir donner n'importe quel organe ou organoïde. Pour ça, il faut les mettre dans un gel. C'est la gélatine qu'il y a autour des œufs, pour ceux qui mangent des œufs en gélatine. Donc, on met les cellules dans ce gel et elles s'auto-organisent. On les dirige un petit peu avec des guides chimiques, si vous voulez. On met des milieux, on sait par l'étude du développement humain, quels sont les gènes ou les molécules qui sont importantes pour engager vers du cœur ou engager vers du côlon ou vers du foie. Donc, on a appris ça au cours des dizaines d'années de biologie du développement humain. Et donc, on essaye de reproduire ça en tube. On reproduit ça en tube pour en faire toutes les étapes du développement embryonnaire. D'abord, on fait dans un embryon, il y a plusieurs couches, si vous voulez. Il y a la couche interne, il y a la couche moyenne, on va dire, et la couche externe, pour faire simple, et qui donne différents organes. La couche externe, par exemple, donne la peau et le cerveau. Donc, on engage les cellules qui sont dans le gel grâce à un milieu de culture où il y a des composants qu'on connaît. On va faire soit de la couche externe, soit de la couche interne, soit de la couche moyenne. Et à partir de là, on va orienter à nouveau à travers des signaux chimiques pour devenir un foie, pour devenir un rein, mais un organoïde, quelque chose qui ressemble à, mais pas qui est exactement un foie.
Alors ces organoïdes, les chercheurs vont donc les agrémenter d'une puce. Ça permet donc de monitorer les fonctions de cet organoïde correctement. Et là, on peut aborder la question de la puce et de la microfluidique ensemble, Stéphanie Descroix.
Si vous voulez, on garde sur l'intestin, parce que nous, on met des organoïdes sur des puces pour faire de l'intestin sur puce. Alors la microfluidique, c'est une science, enfin c'est un domaine scientifique et technologique qui est assez récent, qui a une trentaine d'années. Alors il y a une définition exacte, je me dois de la donner. La définition exacte, c'est la science des écoulements de fluides, que ce soit des liquides ou des gaz, à l'intérieur de canalisations qui sont de dimension micrométrique, c'est-à-dire de l'ordre de grandeur d'un diamètre de cheveux. On peut se dire ça. Alors une fois que je vous ai dit ça, je suis pas sûre que ça vous parle beaucoup. Nous on dit aussi que c'est de la microplomberie, parce qu'effectivement on a des chambres, on a des canaux, on a de l'aiguillage entre ces chambres par ces canaux qu'on peut contrôler. Et le cœur technologique de cette science, de ce domaine scientifique, c'est la fabrication des puces microfluidiques. Et les puces microfluidiques, alors on appelle ça des puces parce que ça a utilisé aussi beaucoup au début un certain nombre de technologies qui étaient celles de la microélectronique. C'est pour ça qu'on a gardé la terminologie puce. À part ça, il n'y a pas grand-chose, sauf quand on rajoute des capteurs obligatoirement de microélectronique dans ces systèmes-là. Et pour vous donner des ordres de grandeur, c'est l'équivalent d'une lame de verre, la même que quand vous allez dans votre laboratoire d'analyse médicale. Et dessus, il y a des petits réservoirs, voilà, des petits serpentins qui vous permettent d'amener du liquide à droite, à gauche. Et à l'intérieur de ça, on fait des organes. Par exemple, pour l'intestin, nous, on fait des intestins qui font 2 mm carrés.
Oui, c'est beaucoup de physique à petite échelle pour reproduire ces conditions.
Exactement. Ça, c'était vraiment un des démarrages de la microfluidique, ça a été de se rendre compte que quand on fait couler des liquides à l'intérieur de ces puces, ils ne se comportent pas de la même façon que si c'est dans votre tuyau d'arrosage, par exemple. J'ai une image, par exemple, un truc tout simple, c'est imaginons qu'on est au-dessus d'un pont et qu'il y a de l'eau qui s'écoule dans la rivière, sous le pont, et on regarde autour des piliers, on voit qu'il y a des espèces de vortex qui se forment, qui sont des phénomènes de turbulence. Alors que dans les systèmes microfluidiques, si vous mettez des fluides à s'écouler, ils vont s'écouler côte à côte. Et on ne verra jamais ces vortex et on ne verra jamais de turbulence. On appelle ça la laminarité des flux. Et ça, c'est clairement lié à l'échelle à laquelle on travaille. Le fait de travailler dans des dimensions micrométriques fait que la physique est un peu différente. Vous pouvez aussi imaginer que les rapports des forces deviennent un peu différents. La gravité à ces échelles-là, qu'elle n'est pas dans notre canne, pour nous, elle est très importante, mais à cette échelle-là, elle peut devenir négligeable. Les forces capillaires vont devenir des forces importantes. Donc oui, il y a un certain nombre de mécanismes physiques qui sont différents à ces échelles, dont on tire parti aussi pour développer ces systèmes d'organes sur puce.
Les physiques se comportent donc de manière particulière à ces échelles très petites, Xavier Gidrol.
Oui, absolument. Donc, comme le disait Stéphanie, c'est une nouvelle physique, ou une physique plutôt de la petite taille et donc avec des particularités très importantes, mais qui ont permis aussi d'en faire un allié pour justement cette laminarité des flux. Ça nous permet de faire des choses. On peut faire des micro-gouttelettes monodisperses. On peut faire des micro-gouttelettes avec une seule cellule pour travailler sur ce qu'on appelle la clonalité, c'est-à-dire avoir une seule cellule qui va donner un organoïde qui sera clonal, qui est issu d'une seule cellule, pas d'une agglomération de plusieurs cellules. Donc ça, c'est uniquement possible grâce à la microfluidique. Donc c'est vraiment un domaine avec d'une physique particulière. Il faut des spécialistes, il faut des physiciens, il faut modéliser des flux pour piéger des objets, etc. Mais ça a permis de faire des choses qui étaient impossibles avant, grâce justement à ces propriétés spécifiques dans les petits volumes.
Et si je peux me permettre, il y a un aspect de miniaturisation. On a parlé beaucoup de dimensions micrométriques, mais ça, pour les organes sur puce, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Je sais qu'on va en discuter un peu plus tard des aspects d'oncologie, mais imaginez que vous démarrez avec une biopsie de patient. Vous avez quelques centaines de milliers de cellules et vous voulez tester 10 médicaments et vous n'allez pas faire la manip juste une fois, mais vous allez faire en triplica au moins 4 ou 5 fois, pour voir. Si à chaque fois vous utilisez toutes vos cellules, vous n'allez pas tester grand-chose. Par contre, être capable de travailler dans ces dimensions miniaturisées permet, à partir d'une quantité finie d'échantillons, de tester plein de conditions. Et ça, c'est aussi une des vertus de ces dimensions et de ces aspects microfluidiques.
Justement, par rapport aux applications, on peut parler de celle principale qui est de faire de la recherche fondamentale en biologie, notamment, Xavier Gidrol. Les organoïdes sur puce et les organes sur puce sont des outils très prometteurs.
Oui, complètement. Parce que, encore une fois, comprendre le développement humain, on est loin d'avoir tout compris. On pense toujours que il n'y a plus besoin de recherche, on a tout compris sur le développement humain, et c'est pas du tout le cas. Et ces objets-là, à la fois les organoïdes et la microfluidique permettent de poser des questions qu'on ne pouvait pas poser avant, et surtout observer des choses qu'on ne pouvait pas observer. C'est comme vous savez, c'est très difficile de travailler sur des embryons humains. Il arrive qu'il y ait des embryons qui décèdent, et on peut travailler là-dessus. Il n'y a pas la dynamique, tandis que là, on peut avoir la dynamique de développement. On peut étudier, par exemple, quels sont les gènes importants pour aller former un cœur, un foie, un côlon, faire des tests génétiques sur ces cellules et les regarder se développer en organoïdes en direct avec de la dynamique. Et puis, comme on l'évoquait tout à l'heure, mesurer tout au long, grâce parfois au mariage du silicium et du plastique, des capteurs et de la microfluidique, certains paramètres, encore une fois, de façon dynamique. Donc, ça a été et puis l'imagerie, bien entendu, j'ai oublié, pouvoir observer ces objets sous des microscopes en temps réel et en dynamique. Donc, ça a permis de aborder des choses qu'on ne savait pas aborder avant. On ne pouvait pas aller voir où, cœur de l'humain, comment se développer un embryon en direct et dynamique. Et là, on peut le mimer pour mieux le comprendre.
Xavier Gidrolle, très rapidement, parce que c'est assez anecdotique, mais on a aussi envoyé des organoïdes dans l'espace à bord de l'ISS. Pourquoi une expérience comme celle-ci ?
Mais justement, pour étudier le développement humain, on sait que l'embryon humain se développe dans l'utérus avec des conditions physiques, physiologiques et chimiques assez constantes en termes de température, de pression partielle d'oxygène, de gravité. Et là, au plan fondamental, aller faire mimer le développement humain dans l'espace en absence de gravité, ça nous permet de regarder ce qui se passe, de se poser des questions. Est-ce que on sait qu'un embryon se développe avec selon deux axes, un axe dorso-ventral et un axe avant-arrière, si vous voulez. Est-ce que ça reste vrai en absence de gravité? Ce genre de questions peut être abordé en développant un organoïde dans une station spatiale où il n'y a pas de gravité, par exemple.
Stéphanie Descroix, donc voilà, avec des organes sur puce, on peut s'intéresser à la biophysique, c'est-à-dire donc comment les forces au sein des organes influent les cellules, et ça c'est de la recherche fondamentale pure.
Et ça va bien compléter ce que mentionnait Xavier, c'est-à-dire qu'il y a effectivement tout un aspect biologie du développement qui est porté, ou qui en tout cas qui va bénéficier de ces développements, mais je pense qu'il y a plein d'autres en biologie cellulaire. Il est assez clair aujourd'hui que la dimension tridimensionnelle des cellules et des organes est extrêmement importante, que les matrices sur lesquelles, c'est l'échafaudage sur lequel reposent les cellules est extrêmement important, parce que les cellules sentent des choses et elles sentent également les forces, vous avez raison. Et nous, par exemple, on a développé un projet sur lequel on s'intéresse aux forces qui sont exercées au sein de l'intestin. L'intestin est un organe absolument génial, très largement sous-estimé à mon sens. Donc c'est un organe avec une structure 3D très particulière, et en plus c'est pas la même si on est dans le côlon ou dans différentes parties de l'intestin. Donc on a soit ses creux, soit ses bosses. Dans le côlon on a que les creux. Et donc il y a une architecture particulière, une organisation spatiale des cellules très particulière, c'est-à-dire que au fond de ces petits creux qu'on appelle des cryptes, il y a les cellules qui sont souches, celles qui vont donner les différents types cellulaires. Et sachez que vos intestins, le vôtre, le mien, se font partie des organes qui s'auto-renouvellent le plus rapidement, puisque toutes les semaines, on a quasiment un nouvel épithélium intestinal, c'est-à-dire la première couche de cellules sur nos intestins. Et il y a également des forces, parce que si vous imaginez que l'intestin est un tube et que la nourriture, le bolus alimentaire progresse au sein de ce tube, il faut le pousser. Et pour le pousser, il y a deux couches de muscles qui vont se contracter les unes après les autres. C'est ce qu'on appelle le mouvement péristaltique. Et donc ça, à l'échelle d'une cellule, ça veut dire que la cellule, elle est étirée, comprimée, étirée, comprimée. Et en même temps, quand le bolus alimentaire passe au niveau de la cellule, à la surface de la cellule, il y a des forces qu'on appelle de cisaillement, c'est une sorte de frottement au niveau de la cellule. Et aujourd'hui, on ne comprend pas bien quel est le rôle de ces forces et comment elles vont affecter les cellules. Donc pour essayer de comprendre ça, on a développé un système de colon sur puce, où on recrée la structure 3D, on met les différents types cellulaires qui coexistent, c'est-à-dire les cellules épithéliales, celles qui forment la première couche, et puis dans ce gel, qui est un gel de collagène, on met d'autres types cellulaires et on applique des mouvements. Et on essaye de mimer ces mouvements qui sont les mouvements in vivo pour essayer de comprendre et utiliser des lois de la physique pour expliquer ce qui se passe dans ces systèmes biologiques.
Voilà, pour toutes les applications assez vertigineuses côté recherche fondamentale. Et la recherche pharmacologique, c'est évidemment un des domaines les plus actifs sur ce genre de technologie. Quelle place auront les organoïdes dans les recherches de demain? Comment pourront-ils être au chevet des patients? Restez avec nous, ça continue de mettre le vertige.
Bah, cœur qui bat. Doucement il bat au rythme du temps d'un cœur qui attend.
Le cœur qui bat de Pétula Clark en direct sur France Culture, car aujourd'hui c'est notre cœur qui bat pour le développement des organoïdes, ces maquettes d'organes développées in vitro et qui reproduisent des fonctions de cœur, de poumons, de reins, de cerveau. On en parle avec nos deux invités du jour, Stéphanie Descroix, directrice de recherche au CNRS et chef d'équipe à l'Institut Curie, Xavier Gidrol, directeur du laboratoire Biomix, associé au CEA, à l'INSERM et à l'Université Grenoble-Alpes. On vient de parler de la pluridisciplinarité de ces technologies. La puce, hein, qui est un ensemble de savoirs entre l'électronique, la physique, la biologie, la médecine, la microfluidique. On a parlé des applications de ces technologies pour la recherche fondamentale. Parlons à présent des applications en recherche pharmacologie. Xavier Gidrol, on peut étudier et développer de nouveaux médicaments en passant par les organoïdes. Et ça, c'est un avantage immense.
Absolument, parce que effectivement, on se rapproche de la réalité physiologique avec ces objets-là, et donc on peut tester des médicaments, voire découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques et les agents qui peuvent les cibler dans des conditions plus proches de la réalité physiologique. Donc effectivement, c'est un avantage important. On peut en plus les paralléliser, c'est-à-dire générer une multitude d'organoïdes qu'on va distribuer dans des plaques qui sont dévolues pour ça et tester des milliers de médicaments sur des milliers d'organoïdes qui se ressemblent et qu'ils soient reproductibles et qui se ressemblent. Donc oui, ça peut permettre de faire des progrès par rapport à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que soit on faisait de la recherche pharmacologique, on fait toujours sur des cellules en deux dimensions qui poussent sur du plastique, et effectivement, comme le disait Stéphanie fort justement, on n'a pas beaucoup de plastique dans le corps, donc ça ne représentait pas la réalité physiologique, ou après sur des modèles animaux qui ont leurs propres limitations aussi. Donc on espère qu'en développant des médicaments sur ces organoïdes humains, qui mime des fonctions physiologiques qui ressemblent à la physiologie de l'humain, ça reste des modèles, hein, il y a encore des progrès à faire, mais c'est déjà un progrès énorme par rapport à la culture en deux dimensions.
On peut rappeler que des médicaments qui sortent des tests sur l'animal, seulement 10% s'avèrent efficaces sur l'humain. Et alors pour l'oncologie, c'est seulement 5%, Stéphanie Descroix.
Oui, ces chiffres sont quand même assez incroyables. Si on pense en termes notamment de coûts pour les industries pharmaceutiques, c'est quand même des milliards et des milliards. Après, c'est souvent pour des effets, des questions de toxicité, d'efficacité. C'est-à-dire que les concentrations qui ont été testées sur l'animal ne permettent pas d'avoir les mêmes effets ou sont trop toxiques sur l'homme. Et on peut espérer, mais de nouveau, je pense qu'il faut être raisonnable intellectuellement. C'est-à-dire que les modèles, c'est une des réponses à ces questions. C'est pas la seule réponse à ces questions-là et à ces difficultés-là. Mais on pense aujourd'hui qu'effectivement, développer des modèles biologiques qui vont mieux mimer la pathologie humaine permettront justement certainement de trier déjà en amont les molécules dont on sait qu'elles ne marcheront pas chez l'humain et de limiter le nombre de candidats qu'on testera ensuite en essai clinique, ce qui évitera ce qu'on appelle les adverse effects en anglais, dont je n'arrive pas à trouver la traduction. Bon, les effets pas bons, visiblement.
Secondaires,
mais néfastes pour les patients, et donc justement de limiter le nombre de molécules qu'on mettra en essai. Effectivement, les organoïdes et les organes surplus, de par leur capacité à mieux mimer la pathologie, et c'est ce dont on n'a pas discuté, on a dit c'est possible de faire de la biophysique avec, c'est possible de faire du développement avec, mais un des grands champs de recherche qui va s'articuler autour de ces systèmes-là, c'est aussi d'essayer de mieux comprendre les mécanismes des pathologies. C'est ce que disait Xavier. Comprendre les mécanismes, c'est trouver des nouvelles cibles pour pouvoir développer des nouveaux médicaments. Et ensuite, effectivement, en recherche pharma, on peut espérer, et les pharma commencent à s'y mettre quand même significativement, que ces nouveaux modèles vont permettre d'être des meilleurs avatars de ce qui se passe dans nos corps pour trouver des meilleurs traitements pour les patients.
Voilà, pareil, en tout cas, la fin de l'expérimentation animale, c'est compliqué. Hein. Par contre, on va très certainement vers une forte diminution de l'expérimentation animale grâce justement aux organes et aux organoïdes surplus. Autre avantage considérable, Xavier Gidrol, c'est le fait de pouvoir aussi tester des traitements personnalisés à chacun des patients. C'est une application aussi, la médecine personnalisée.
Oui, on peut aussi utiliser les organoïdes en recherche pharmacologique sur des organoïdes de mimant des pathologies, une mutation génétique. Par exemple, au labo, on travaille sur la pathologie xéroderma pigmentosum, qui sont ces enfants lunes, ces enfants qui ont des problèmes de réparation de leur ADN, qui fait qu'ils peuvent jamais être exposés au soleil. Ils doivent porter des combinaisons qui les couvrent complètement, ne sortir que la nuit, d'où le nom enfant lune. Et donc, on arrive à faire des organoïdes de peau qui portent cette mutation, des organoïdes de peau d'enfants lune, si vous voulez, qu'on a fabriqués au labo, et donc ça permet de faire de meilleurs modèles pour tester des médicaments. J'en viens maintenant à la médecine personnalisée, plus sur votre question. Effectivement, donc là, c'est une vraie promesse aussi et un vrai progrès potentiel. Je suis absolument convaincu, je crois que Stéphanie aussi, que les organoïdes, organes surplus, rentreront dans le parcours de soins. Je ne peux pas vous dire quand, mais j'en suis très convaincu, et ça sera plus tôt qu'on le pense. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, que ce soit en oncologie, mais aussi en maladie inflammatoire, par exemple, on traite tous les patients de la même façon, avec les mêmes molécules qui ont été développées par l'industrie pharmacologique. Or, on sait que on est tous différents, on a tous des génétiques différentes, des phénotypes différents, et qu'on répond pas tous de la même façon aux médicaments. Or, on sait pas presque jamais pourquoi telle population répond alors que telle autre ne répond pas. Et donc là, il y a une ouverture possible en faisant la médecine personnalisée pour être sûr que le médicament qu'on va utiliser correspond bien à la personne à qui on veut le donner. Et donc pour faire ça, il faut effectivement des cellules de patients, ce qu'on appelle des cellules primaires, prendre des cellules de patients et tester les médicaments à disposition du médecin. Là, on ne parle pas de développement de médicaments, on a le médecin, le clinicien à 4, 5, 10 médicaments à sa disposition, mais pour savoir lequel donner à son patient ou à sa patiente, ça serait bien de pouvoir tester avant sur quelque chose qui soit le meilleur modèle possible du patient. Et donc ces cellules avec sa génétique sont un excellent modèle, et si on peut les faire pousser en 3 dimensions et faire un organoïde, on se rapproche un peu plus de la réalité physiologique. Si on peut les vasculariser aussi, Et donc là, le principe sera assez simple. En oncologie, il y aura 4 médicaments possibles pour une patiente qui a un cancer du sein. Et donc, en même temps qu'on va avoir le diagnostic, idéalement, ça serait bien qu'on puisse dire, pour cette patiente, le meilleur médicament, celui qui a été le plus efficace sur ses organoïdes, c'est celui-là. Et ça aide, et ça donne une information importante aux cliniciens pour choisir le choix thérapeutique. Le défi, c'est de faire très rapidement, parce que en fait, si on le fait en 6-7 mois, vous savez, le cancer, par exemple, ça évolue vite, ça peut être trop tard. Donc, il faudrait être capable de faire ça en 3 semaines, en 1 mois, c'est-à-dire à la même vitesse que le diagnostic.
Voilà, tester plus vite et plus efficacement. Et Xavier Gidrol, je vous remercie, vous venez d'introduire parfaitement notre reportage du jour, puisque dans le domaine thérapeutique, une des applications des recherches sur les organoïdes concerne donc l'oncologie, avec des avantages considérables pour la prise en charge des patients. Céline Lauzen, vous êtes allée au centre Gustave Roussy, où une équipe développe un projet de médecine personnalisée grâce aux organoïdes. Bonjour Céline.
Bonjour Natacha. Oui, en ce qui concerne les cancers digestifs, une équipe dirigée par Fanny Jolin porte un projet nommé Organomique, dont l'objectif est de tester sur des organoïdes un panel de traitements existants pour une tumeur donnée. En laboratoire, ils font pousser des organoïdes issus des cellules du patient pour faire une copie en 3D de la tumeur. Des avatars, en quelque sorte, appelés des tumoroïdes, capables de reproduire les spécificités génétiques, histologiques ou morphologiques de chaque tumeur. Ainsi, par cette approche, il est possible d'établir pour chaque patient un traitement personnalisé en fonction de la thérapie qui a le mieux fonctionné sur sa tumoroïde.
Donc moi, je suis Fanny Jolin, je dirige un laboratoire à Gustave Roussy depuis plus de 10 ans. Et en fait, mon but, ça a été de 2 choses. Déjà, essayer de comprendre la maladie humaine et travailler le moins possible sur des modèles expérimentaux comme les souris, les lignées cellulaires. Et la deuxième chose, c'était d'implémenter la biologie cellulaire. C'est-à-dire qu'en fait, on vient de dizaines d'années qui ont été dominées par la biologie moléculaire, l'étude de l'ADN, etc. Et je pensais qu'il fallait utiliser la biologie cellulaire pour comprendre les cancers, mais peut-être aussi pour mieux les soigner. Et donc, on a fait énormément de choses qui nous a conduit à construire un programme de recherche qui est un programme de consortium qu'on a appelé RHU Organomique, qui vise à implémenter les organoïdes dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Et donc ça peut se faire par 2 choses. Ce qui nous a paru immédiat et à court terme, on va dire, c'est d'utiliser la technologie des organoïdes qui nous permet, en fait, quand on prend des explants de patients, de les propager au laboratoire.
Les explants, ce sont des échantillons de tumeurs.
Des échantillons primaires, oui. En fait, donc, dans le but de ne pas utiliser de modèles expérimentaux, on travaille directement avec des explants de patients, c'est-à-dire des petits morceaux de tumeurs qu'on récupère au bloc opératoire ou en anapath, en parallèle du parcours diagnostique ou thérapeutique du patient. Donc, en parallèle, au niveau des laboratoires de recherche, on peut récupérer le matériel qui ne sert pas à toutes ces activités cliniques. Et grâce à la technologie des organoïdes, on peut amplifier ce matériel dans le laboratoire pour faire des mini-tumeurs. Et du coup, on a une mini-tumeur pour chaque patient. Et c'est là qu'on s'est dit qu'en fait, ça pouvait nous servir à orienter le traitement des patients. En fait, il y a énormément de cancers pour lesquels tout ce qui va être analyse des mutations au niveau de l'ADN, thérapie ciblée, n'a aucun bénéfice, notamment les cancers digestifs, les cancers du pancréas ou les cancers du côlon. Il n'y a pas de mutation actionnable. C'est-à-dire quand on regarde l'ADN des patients, en fait, on ne voit pas de mutation. Et du coup, on ne peut pas leur prescrire de thérapie ciblée un peu élégante. Et donc, c'est des patients qui ont des vieilles chimiothérapies du siècle dernier.
Alors, je m'appelle Émilie Gontran, je suis ingénieure de recherche dans l'équipe Invasion Collective de Fanny Jolin, qui dirige cette équipe au sein de l'Institut Gustave Roussy.
Donc ici, on arrive à faire des copies des tumeurs vraiment issues des patients en puisant dans leurs cellules et en les cultivant en laboratoire de manière à obtenir ces organoïdes sur lesquels on va injecter différents traitements à différentes concentrations pour voir l'efficacité de ces traitements plutôt que de le faire directement sur les patients.
Voilà, exactement. Donc, en fait, on cultive ces organoïdes dans des systèmes de plaques. Et plus spécifiquement, on les cultive dans des hydrogels qui vont, de façon encore une fois très minimaliste, mimer les propriétés du micro-environnement de ces cellules tumorales.
Donc là, vous sortez l'incubateur, une plaque avec 6 puits.
Voilà, c'est ça. Donc,
et il y en a deux qui sont...
Il y en a deux qui sont remplis. Donc là, ce que vous pouvez voir d'arrondi, ce sont les gouttes. Le fait que ce soit un peu trouble, ça correspond au fait que les organoïdes sont assez denses. Voilà. Et c'est recouvert de milieux de culture, donc c'est un milieu
un peu rose.
Nutritif. Voilà, il est rose parce qu'il y a un indicateur coloré. Ouais, il y a des sucres, il y a des acides aminés. Enfin, il y a plein de, il y a des facteurs de croissance. C'est vraiment un milieu nutritif. On veut pouvoir les utiliser et travailler avec, donc on cherche à maximiser leur survie ex vivo, quoi. Voilà. Je fixe la plaque de manière à ce qu'elle bouge pas, parce que je vais bouger la platine pour focaliser, donc centrer l'objectif sur une goutte d'hydrogel qui contient les organoïdes. Et après, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je regarde juste aux oculaires pour repérer les organoïdes. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on note le nom du patient, donc la référence du patient sur la plaque, comme ce qui nous permet d'identifier...
Qui sont anonymisés.
Exactement, avec la date à laquelle on s'est occupé des cellules. Et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est une goutte d'hydrogel qui contient... Alors, elle est assez dense, vous allez voir.
Ah oui, il y a pas, j'ai une myriade de bulles, mais...
Des petites boules assez brillantes, c'est ça?
Oui, et ouais, parfois des sombres.
Rien qu'à observer les organoïdes sous ce microscope, on devine l'état dans lequel sont les cellules. C'est-à-dire...
Oui, c'est un premier diagnostic.
Exactement. Il y a l'œil, c'est le diagnostic visuel, c'est hyper important dans notre travail. Le fait de voir les organoïdes assez brillants comme ça, ça nous indique que la culture est en forme. Donc, ça nous donne confiance pour travailler avec ces cellules. Voilà.
Alors, on vient de finir notre deuxième étude pilote. Donc, en fait, avant, les essais cliniques se passent en deux temps. On fait une étude observationnelle. Alors, c'est des patients donc, qui sont inclus dans un essai clinique, qui signent un consentement éclairé. Et on fait un organoïde à partir de leur tumeur. Et on va traiter leur tumeur avec le médicament qu'ils reçoivent pour comparer et calibrer un peu notre test.
Est-ce qu'on observe exactement la même réponse qu'espérée sur les organoïdes, les tumoroïdes?
En fait, du coup, ça s'évalue avec la sensibilité, la spécificité. Donc, on est dans les 90%, ce qui est déjà extrêmement performant. Et après, dans un deuxième temps, donc on a fait une cohorte sur le cancer colorectal, une autre cohorte sur les cancers du pancréas. Et donc maintenant que cette deuxième cohorte est terminée, on va pouvoir ouvrir des essais cliniques qu'on appelle interventionnels, où le but, ça va être maintenant d'aller orienter le traitement basé sur un test de médicament réalisé sur l'avatar de la tumeur de chaque patient.
Merci Céline Lozen pour ce reportage. Stéphanie Descroix, vous travaillez aussi sur ce genre d'application, une réaction à ce qu'on vient d'entendre?
C'est très très prometteur et ce que je voulais mentionner, c'est que c'est assez complémentaire. Justement, Fanny Jolin est essentiellement sur les organoïdes. Nous, ce qu'on propose à Curie Plus, sur ce qu'on appelle les tumeurs sur puce, où l'idée c'est de faire effectivement un avatar de patient sur puce, avec l'idée que avec les organoïdes, si on ne met que les cellules tumorales, on peut aisément tester des chimiothérapies. Mais aujourd'hui, il y a des nouvelles thérapies qui impliquent d'autres cellules du micro-environnement tumoral, notamment les cellules immunitaires. On parle des immunothérapies, où en fait, on aide le corps à utiliser son système immunitaire pour se battre contre les cellules tumorales. Et donc, nous, l'idée, c'est effectivement de faire le même type de système observationnel ou interventionnel sur du cancer du sein, mais avec aussi la composante immunitaire. Et aujourd'hui, on a notre premier papier publié sur des échantillons de patients sur lesquels on a fait développer des tumeurs sur puce de patients de poumons et on a testé des immunothérapies, justement avec l'idée que ce micro-environnement est complexe et qu'il faut être capable, en un temps très court, effectivement, comme le mentionnait Xavier, d'avoir ces réponses-là. Nous, l'idée, là, c'est d'être sur une semaine. C'est-à-dire qu'on prend l'échantillon et une semaine après, on devrait être capable de dire au médecin à quel type de thérapie le patient peut répondre. Et effectivement, là, on est pile dans la médecine personnalisée. C'est ce que moi, j'appelle des analyses fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas juste la génétique ou l'expression d'un certain nombre de marqueurs, mais on regarde le fonctionnement directement des cellules du patient, l'avatar du patient.
Xavier Gidrol, je vois l'heure qui tourne. Autre application très importante, autre application future possible grâce à ces organoïdes sur puce, ce sont les essais cliniques.
Oui, alors là, on est un peu plutôt dans la science-fiction, mais j'y crois beaucoup aussi. Donc, science-fiction en termes de longueur de terme. Juste sur le même principe de médecine personnalisée, c'est-à-dire les cellules d'un individu, bien, on pourrait étendre ça à des essais cliniques. Et notamment, vous savez que les essais cliniques aujourd'hui, on ne les fait jamais sur des enfants ou sur des femmes enceintes parce qu'il y a des risques. Donc, on fait des estimations à partir de modèles, mais on ne teste jamais pour de vrai. Et donc, on pourrait à terme avoir des essais cliniques. Vous savez que ça coûte très cher aujourd'hui, plus d'un milliard de dollars minimum, souvent deux. Et puis, avec des populations auxquelles jamais on va faire d'essais cliniques, je l'évoquais, les enfants, les femmes enceintes ou les habitants d'une île où il y a au milieu du Pacifique où il n'y a que 300 habitants. Et les organes surplus et les organoïdes permettraient de faire ça à terme. On prend les cellules de femmes enceintes et plutôt que de risquer de leur injecter un médicament et d'avoir des effets adverses, on ferait ça sur la puce ou sur l'organoïde. Et donc, si on étend ça à des grandes quantités de personnes, on pourrait avoir des dizaines de milliers de puces dans une pièce pour faire des essais cliniques. Ça devrait réduire significativement les coûts. Mais là, encore une fois, on est un peu dans la science-fiction.
Alors, autre projet science-fictionnesque, c'est le projet de coupler plusieurs puces et de mettre en relation plusieurs mini-organes. Un human on chip, littéralement un homme sur puce. Pour le moment, on en est encore très très loin, même si on arrive à coupler des organes et des fluides qui vont avec jusqu'à une dizaine d'organes. Voilà, mimer la complexité d'un organisme entier sur des puces, c'est encore pour le moment peu réaliste. Question d'avenir, par rapport à l'innovation et les investissements qui sont injectés dans ces technologies, Xavier Gidrolle, vous faites partie des copilotes du PEPR, le récent programme de recherche, programme équipement prioritaire de recherche. C'est un plan qui injecte 48 millions d'euros sur 6 ans. Est-ce que la France s'implique-t-elle et investit-elle à la hauteur de ces technologies d'avenir ?
Oui, je pense. On pourrait toujours faire mieux et comme beaucoup de personnes, de domaines, on pourrait demander plus d'argent. Mais c'est déjà, on peut être très satisfait que notre pays s'investisse là-dedans. On vous l'a dit, on est convaincu que à minima, ces objets vont rentrer dans le parcours de soins, vont être à l'hôpital, vont permettre de répondre à plusieurs enjeux. Et donc, on peut être fier que notre pays investit 48 millions, d'autant que c'est complété par ce qu'on appelle un contrat stratégique de filière qui est plus du côté industriel où ils ont aussi mis un groupe de travail sur les organes sur puce qui pourrait complémenter ce qu'on pourrait faire dans ce PEPR. Donc ce PEPR c'est plus académique. Il a vocation à travailler sur une nouvelle génération d'organes sur puce et d'organoïdes sur puce. On a évoqué notamment les poumons sur puce ou ce qu'on fait aujourd'hui qui sont souvent avec juste un tapis cellulaire. Là, on s'adresserait au sein de ce programme national où toutes nos forces pourraient être rassemblées, faire sauter trois verrous qui existent aujourd'hui sur les organes sur puce. Le premier, c'est, on a évoqué, n'utiliser que des cellules de patients, ce qu'on appelle des cellules primaires, des cellules de personnes, pas des lignées commerciales. Le deuxième, c'est d'avoir des capteurs et pouvoir avoir de la détection avec du silicium, de mesurer plusieurs paramètres, et ça complémenterait ce qu'on appelle la médecine numérique. Donc il y aurait vraiment une complémentation entre, pour faire simple, la génétique et le cellulaire qu'évoquait Fanny Jeunin. Et puis le troisième verrou, ou troisième limitation, c'est ces multi-organoïdes sur puce. J'aime pas dire humain sur puce, je trouve que c'est un peu mensonger et ça fait peur. Tandis que multi-organoïdes sur puce avec des connexions qui sont physiologiquement pertinentes, ça sera très utile. Donc on va essayer de faire avec ce programme, faire sauter ces trois verrous et l'aide de tous nos collègues en France. Et donc effectivement, on pourrait avoir plus, il y a des pays qui ont plus, mais moi je suis très ravi que notre pays investisse là-dessus parce qu'il y a un aspect de souveraineté qui est très, très, très important. Si on utilise les organes sur puce pour nos patients, on ne va pas les faire en Chine ou en Inde pour des aspects logistiques, mais aussi des aspects de sécurité. Donc, il est absolument essentiel et majeur que notre pays soit souverain dans ce domaine. Et au moins, le PEPR permettra de faire ça.
Merci, merci à vous deux, merci Xavier Gidrolle, merci Stéphanie Descroix. On arrive à la fin de cette discussion, mais on retrouve comme chaque jour la chronique Avec Science par Alexandra Delbault.
mutations génétiques sont-elles forcément nécessaires au développement de cancers? C'est ce qui est communément admis jusqu'ici. Les cellules deviennent cancéreuses parce qu'elles portent dans leur génome des mutations génétiques. Ce sont ces mutations qui font en quelque sorte sauter tous les verrous moléculaires qui garantissent normalement à une cellule de filer bien droit, c'est-à-dire de se multiplier quand on lui demande et de rester sagement là où elle est. C'est avec l'avènement de la biologie moléculaire et du séquençage dans les années 80-90 que l'hypothèse d'un cancer uniquement dû à des mutations génétiques s'est étendue et généralisée. Mais ce modèle pourrait être remis en cause avec la meilleure compréhension de l'épigénétique, tout ce qui régule l'expression des gènes et se transmet sans modification de la séquence d'ADN. Giacomo Cavalli est directeur de recherche CNRS à l'Institut de génétique humaine à Montpellier et dernier auteur de cette étude parue dans Nature.
Nous venons tous d'un zygote, d'un œuf fécondé. Donc, même ADN dans toutes nos cellules, mais chaque cellule exprime un nombre différent de gènes, ce qui permet d'avoir différents types de cellules dans notre corps. Et en fait, une fois qu'une cellule a une destinée, un type cellulaire distinct, elle est capable aussi de le transmettre à la progéniture si elle se divise. Tout ça, ça dépend de l'épigénétique. Et en fait, quand on pense au cancer, on savait que des molécules dont on sait qu'elles sont importantes pour la transmission d'état cellulaire, ben en fait, elles sont impliquées dans le cancer. Quand elles sont mal exprimées, quand il y en a trop ou pas assez, ou quand il y a des mutations dans ces gènes qui codent pour des protéines épigénétiques, eh bien, en fait, on peut avoir des cancers. Donc, on savait qu'elles sont impliquées. En plus, si on compare les métastases au cancer primaire, on trouve rarement des mutations additionnelles. Et donc, on se disait, mais comment ça se fait alors que le cancer reste confiné longtemps à un endroit et puis tout d'un coup, il se déclenche et part ailleurs?
En l'absence de mutations, la réponse est certainement l'épigénétique. C'est donc elle qui peut transformer un cancer circonscrit en un lieu donné en un cancer qui s'étend et qui devient donc métastatique. Mais son influence s'arrête-t-elle à ce coup de pouce? Est-ce que les mutations génétiques sont absolument nécessaires à la formation et au développement de cellules cancéreuses? C'est ce qu'a voulu regarder cette nouvelle étude. Pour cela, pas de souris cette fois, mais des mouches qu'on appelle des drosophiles. C'est un modèle classique en génétique parce que ces mouches sont simples à manipuler et à faire se reproduire tout en ayant la majorité des gènes importants chez l'humain pour le processus de cancérogénèse. Et oui, nous partageons beaucoup de gènes avec la mouche. Alors pas tous, mais beaucoup, oui. Notamment des gènes gardiens du génome qu'on appelle des suppresseurs de tumeurs. En clair, ils contrôlent et régulent à la baisse la prolifération cellulaire. Et ce sont eux qui sont souvent mutés dans les cancers. Mais que se passe-t-il si on ne touche rien au génome, mais qu'on change seulement l'expression de ces gènes? Est-ce qu'une modification épigénétique peut provoquer des cancers chez ces mouches? Résultat, oui. La réduction de l'expression d'un facteur génétique particulier nommé polycombe permet le développement de cancers sans aucune mutation génétique.
On est allé encore plus loin. On a dit, bien, si on a une drosophile qui a une certaine séquence d'ADN, mais on trouve un moyen d'enlever le facteur épigénétique en question pendant quelques heures et ensuite de le remettre. Eh bien, on s'est rendu compte que quand on l'enlève, on déclenche une mauvaise expression génique qui est typique des cancers. Quand on remet le facteur épigénétique, la plupart des gènes reviennent au point de départ, mais il y en a qui restent déréglés. Et ces gènes qui restent déréglés suffisent à induire la tumeur qui devient une tumeur de plus en plus agressive. Ça change le paradigme, en fait, ça remet un peu en question la théorie de Parg et aussi vis-à-vis des implications thérapeutiques parce que, du moins dans notre cas jusqu'à un certain stade, les cellules cancéreuses n'ont pas des mutations d'ADN. Ça, on l'a démontré, on a non seulement induit les cancers de cette manière réversible, mais en plus, on a séquencé l'ADN et on a vraiment vu qu'il n'y a pas de mutation. Donc, cela nous donne espoir parce que ces cellules, quelque part, elles se comportent mal, mais a priori, elles ont toute l'information pour redevenir des cellules normales.
Les cancers peuvent donc être uniquement épigénétiques. Et finalement, si on pousse la théorie un peu plus loin, les mutations génétiques pourraient être seulement une conséquence d'un dérèglement épigénétique. La cellule, à force d'avoir une expression génique qui part dans tous les sens, va en casser son ADN, ce qui provoquerait des mutations. La suite de ces travaux, c'est de tester cette nouvelle hypothèse et comprendre plus précisément la chaîne des événements, chez des insectes toujours, mais aussi chez d'autres modèles animaux et des organoïdes in vitro pour élucider quelles sont précisément chacune des étapes qui conduisent une cellule à devenir un cancer.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Merci à Sébastien Royer à la technique aujourd'hui. N'hésitez pas à nous podcaster sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.